danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui va vous présenter une émission littéraire, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du dictionnaire de littérature à l'usage des snobs qui vient de paraître, ou plutôt qui vient de reparaître aux éditions Le Mot et le Reste et qui a été établi par Fabrice Gagnoux. Fabrice Gagnoux, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je sais qu'il y a une première mouture de ce dictionnaire qui est paru il y a quelques années, c'était en 2007. Il y en a là une deuxième édition qui est peut-être augmentée, réviser, etc. Donc, il ne s'agit pas d'un dictionnaire du snobisme, il s'agit d'un dictionnaire à l'usage des snobs. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que vous avez voulu faire ?
C'est un titre un petit peu que j'ai pris par dérision. Évidemment, ce n'est pas au sens littéral de snob, parce que ça pourrait être rapidement insupportable, puisque ça comporterait surtout l'exclusion. Le snob, par définition, exclut les autres. Mais c'est plutôt un dictionnaire pour réunir des auteurs dont on parle peu, ou qui sont vénérés par une certaine coterie littéraire. Je m'explique. Souvent, j'avais remarqué, en me réunissant avec des amis qui aiment la littérature, que chacun aime citer des auteurs soit oubliés, soit peu connus, soit un peu méprisés.
On aime quelqu'un que les autres ne connaissent pas forcément.
C'est une très, très jolie remarque. Et c'est effectivement cela. Et nous, on se considérait un peu comme snob, parce qu'évidemment, on exhume dans des dîners ou dans des verres de copains, comme ça, des noms d'auteurs que personne ne connaît. Et effectivement, mais alors cela dit, ce qui est intéressant, c'est que ce sont souvent des auteurs qui méritent d'être découverts et exhumés d'une certaine façon.
Alors, Fabrice Gagnoux, il est certain qu'un dictionnaire à l'usage des snobs est forcément évolutif. C'est le genre de chose qui vieillit, parce que le snobisme de 2014 n'est pas le snobisme de 2007, qui n'était pas celui de 2000, de 90, de 80. Tel auteur, très peu connu, s'il est redécouvert par une coterie, par des journalistes, peut devenir justement la coqueluche, et à ce moment-là, il sera snob de ne plus l'aimer, d'en aimer un autre mieux que lui, etc. Donc, il y a forcément une histoire.
Oui, c'est un peu ce que les Anglais appellent un work in progress, quoi. C'est effectivement un dictionnaire qui est appelé à évoluer en permanence, effectivement, comme vous le soulignez. Il y a d'ailleurs dans cette nouvelle édition de 2014, j'ai rajouté quatre notules, notamment sur un écrivain anglais, un dandy.
Déjà, de parler de notules, on montre bien dans quel cercle on se place. Vous parlez de notules.
Je parle de notules parce que ça vous étonne. On peut parler plus d'entrée, si vous voulez, d'entrée. J'ai trouvé, c'est très très justement par rapport à ce que vous dites, c'est assez amusant, parce que justement une amie m'a parlé un jour d'un dandy anglais qui venait de mourir, qui s'appelle Sébastien Horsley. Elle m'a dit, écoute, il a écrit des mémoires dans les années 2000 extraordinaires et tout. J'en avais jamais entendu parler parce que c'était pas traduit en français, j'avais pas fait avant. Et je me suis plongé dedans et je me suis dit, c'est typiquement l'auteur qui doit figurer dans mes dictionnaires, à la fois par son personnage, parce que aussi dans mon dictionnaire il y a beaucoup d'entrées sur des auteurs qui sont quelque part dans leur vie, étaient aussi des personnages. Je pense à Félix Fénéon, des gens comme ça, le baron Corvaux, qui habitaient leurs œuvres et qui étaient presque des livres en mouvement, vivant.
Alors, est-ce que vous considérez que bien souvent, le snobisme consiste à aimer des écrivains qui eux-mêmes étaient des snobs, ou en tout cas des originaux ?
Absolument.
Parce que vous parlez de Fénéon, bon, c'est celui qui écrivait justement des nouvelles en trois lignes, qui faisait d'ailleurs l'effet divers, hein, et les chiens écrasés, mais avec un style extrêmement ramassé et de temps en temps extrêmement comique.
Exactement. Je pense qu'il y a une certaine prédilection en moi pour des auteurs effectivement dont la vie, l'extravagance, le côté un petit peu original me plaît autant que leurs œuvres, effectivement. Je pense que, par exemple, le baron Corvaux, qui était un personnage extravagant, c'était un pseudonyme, effectivement, qui est mort à Venise, qui s'est suicidé, était un personnage... pour le baron Corvaux, c'est simple. On préfère lire la biographie écrite par un de ses contemporains plutôt que ces livres aujourd'hui qui sont un peu oubliés.
Qui sont, on peut le dire, totalement oubliés.
Oui, je crois qu'il écrit un Adrien VII, je sais pas, l'histoire d'un pape, etc. C'est totalement oublié. Mais la biographie de l'un de ses contemporains est assez remarquable parce qu'elle dépeint bien l'époque, le personnage excentrique que c'était et la vie littéraire de cette époque-là. Donc ça m'intéresse aussi. En fait, il y a aussi...
D'une certaine façon, ce qui vous intéresse parfois, c'est les gens dont on a l'impression que l'œuvre principale était leur vie. Comme si leur livre était un reflet, une incidence, un côté un peu collatéral d'une vie qui se voulait différente de la vie qu'on menait à l'époque.
Oui, absolument. Je pense que ce dictionnaire, c'est aussi le roman de... C'est pas du tout romancé, mais c'est quand même le roman de personnages oubliés. Je pense au Tsar Peladan. Qui lit le Tsar Peladan ou Zo Daxa aujourd'hui? Personne ne les lit. C'était des personnages à l'époque qui étaient à la fois, d'une certaine façon, parfois admirés, mais craints, moqués aussi par leur tenue vestimentaire extravagante ou leurs attitudes, leurs etc. Mais à côté de ça, j'ai voulu mettre des personnages entre deux que je trouve dignes d'être toujours lus. Je pense à Pierre Louis, à Jean Lorrain, par exemple, qui sont des écrivains. Je me suis replongé dedans et je trouve que ce sont des écrivains qui sont injustement un peu oubliés aujourd'hui et qui étaient extravagants dans leur vie, dans leur comportement, etc., dans leur cénacle, mais qui sont en même temps qui ont laissé des ouvrages vraiment dignes d'intérêt.
Pierre-Louis, c'est pas totalement ignoré, ne serait-ce qu'à cause du scandale qu'il avait fait, parce que ses romans érotiques, bon, ça a été très largement dépassé depuis, parce qu'à l'époque, il y avait une censure plus importante que maintenant, mais ça avait fait scandale. Oui. Et puis, on voit bien que Pierre-Louis, dont je crois le vrai nom était Pierre-Louis, oui. Le fait de mettre justement un Y, un tréma, d'helléniser tout ça, ça fait un peu petit doigt en l'air, quoi. Oui, donc, lui aussi était snob.
Oui. Alors, dans mon dictionnaire, justement, il y a des écrivains pour snob et des écrivains snob, naturellement.
Est-ce que les écrivains snob sont plus facilement que d'autres des écrivains pour snob?
Pas forcément, parce que je pense qu'il y a des écrivains pour ce que j'appelle les snobs littéraires, toujours en repartant de mon idée de base.
C'est de vous cette expression, les snoblites?
Oui, c'est de moi.
Ah, ouais, c'est Furmed.
C'est
furieusement médiéval.
Ouais, les snoblites, je les appelle. Dans mon cénacle de snoblites, ce n'est pas forcément l'apparence, l'extravagance ou le passé qui compte, mais c'est certain que, en ce qui me concerne moi, je suis aussi très sensible, c'est vrai, à l'extravagance, à la folie furieuse parfois de certains de ces romanciers, car je trouve qu'aujourd'hui c'est peut-être une réaction aussi ce livre, je l'ai mentionné une fois ou deux, contre une certaine grisaille, quoi. Je trouve qu'il y a une uniformisation un peu du monde littéraire. Il y a des très bons écrivains, il y a des grands écrivains, mais enfin il y a une espèce d'uniformisation, justement la course au prix à la rentrée littéraire, tous ces écrivains qui se lovent un peu dans le même moule. Et justement mon livre c'est un peu une galerie de portraits en creux de personnages un peu extravagants. Oui.
Alors, est-ce que vous avez l'impression, Fabrice Gagnon, qu'il y a des périodes qui se prêtent, plus que d'autres, au snobisme littéraire?
Je le crois tout à fait. Je pense qu'il y a... pour moi, l'acmé, enfin le sommet de cette période, et d'ailleurs on le ressent dans mon livre, c'est quand même d'une certaine façon le 19e, la fin du 19e, début 20e siècle.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la période de la décadence.
Voilà, ce sont les symbolistes et surtout les écrivains décadents qui se prêtent. Pour eux, l'écriture était aussi une façon, je dirais, une façon de se comporter. Vous me menez vers des chemins intéressants en réflexion, auxquels je n'ai pas forcément pensé, mais c'est aussi une façon de se comporter, même physiquement, vis-à-vis des autres, dans la société, etc. Ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Un écrivain, c'est quelqu'un qui, à tort ou à raison, peut-être à raison, se consacre à son œuvre uniquement. Il n'a que faire de son apparence vestimentaire, physique. Un écrivain aujourd'hui ne se construira pas non plus de la façon dont les écrivains pouvaient se construire à la fin du 19e, au début du 20e. Il n'essaye pas de se surjouer une personnalité. De la même façon, pas du tout, pour moi, pas du tout.
Quelques notes de musique, et puis on y revient, toujours dans la danse des mots, à propos de votre dictionnaire à l'usage des snobs.
souhaitez réécouter l'émission La Danse des mots, rendez-vous sur le site internet rfi.fr.
Fabrice Gagnaud, merci d'être avec nous aujourd'hui dans La Danse des mots. Vous avez donc fait paraître aux éditions Le Mot et le Reste ce dictionnaire de littérature à l'usage des snobs. Et comment parler de la décadence? Il y a une question qui m'intéresse, c'est de savoir si à cette époque, le rôle de l'écrivain, le statut, la position de l'écrivain était quelque chose de particulier et de différent de ce qu'il est aujourd'hui.
Absolument. On ne cesse de dire que le rôle de l'écrivain aujourd'hui, je vois bien dans les débats, est toujours central, mais je n'en suis pas si sûr. Je ne pense pas que la voix de l'écrivain soit autant perceptible qu'elle l'était à l'époque.
Il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'écrivains aujourd'hui que jadis, et surtout, ouais, il y a beaucoup plus de livres qui paraissent. C'est multiplié par, je ne sais pas, par 30 par rapport à il y a quelques décennies.
Absolument. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, peut-être que le... Évidemment, il y avait... Bon, c'est des banalités de le dire, mais il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tous les moyens extra-médiatiques de se faire entendre. Et l'écrivain, à l'époque, c'est vraiment, je pense à des figures comme Paul Valéry. Bon, ben lui, c'est pas ni un snoblite, ni un snob, mais des figures centrales comme ça, qui étaient des gens qui étaient révérés, hein, quand même. L'écrivain qui arrivait quelque part, qui se rendrait quelque part, c'était vraiment un personnage écouté, je pense, central, bien plus que l'était le journaliste, par exemple, à l'époque. C'était un personnage assez rêvé aussi pour les gens.
En même temps que, à cette époque, en tout cas, à la fin du 19e, il cherchait vraiment à se singulariser. Bon, on parlait de la décadence. L'une des figures peut-être majeures de la décadence, c'est Huysmans, avec ses héros divers, en particulier avec Des Esseintes, qui est le héros de Harbourg, et qui fait tout justement pour ne pas être comme les autres. Il y a une espèce de volonté de pousser le raffinement à l'extrême pour se distinguer. Est-ce que le snobisme, c'est la distinction ?
D'une certaine façon, oui. Le snobisme, pour moi, doit surtout pas être pris dans l'acceptation sociale d'exclure les autres d'une façon un peu dédaigneuse ou hautaine.
Pourtant, on n'y échappe pas.
Hein. Oui, on n'y échappe pas. Mais je pense que le snoblite, c'est un peu comme le dandy. Sa figure, c'est qu'il ne peut exister que dans la singularité, se distinguer de la masse, entre guillemets. Et ce n'est que comme ça, au fond, qu'il peut exister, qu'il peut se... Alors comment il peut justement se distinguer de la masse? En se créant un personnage. Donc beaucoup d'écrivains, enfin certains écrivains de cette époque, et non des moindres, hein, comme Huysmans, comme Pierre-Louise, Jean Lorrain, il y en avait d'autres, même d'une certaine façon Proust, se créait quand même Proust avec sa pelisse, sa célèbre pelisse qu'il ne quittait pas, même lorsqu'il se rendait dans des salons de thé surchauffés. C'est se créer en même temps une espèce de carapace. Je pense que l'extravagance vestimentaire aussi des dandys, leur façon d'être, de se poudrer, de se comporter, tenait aussi à ça. C'était de se distinguer des autres pour être remarqué des autres. Oui.
Alors, il y a quelque chose qui m'étonne quand on réfléchit sur le snobisme, c'est qu'il me semble qu'on se trouve en face de deux personnages qui sont complètement antagonistes, qui sont le contraire l'un de l'autre. Parce que, quand on pense au snobisme, à qui pense-t-on ? À Monsieur Jourdain, au bourgeois gentilhomme, à celui qui est parvenu à quelque chose, mais qui n'a pas d'éducation au départ, qui s'en sont rabaissés, qui se sent un petit peu complexé et qui voudrait avoir un savoir qui lui échappe, et qui donc est ridicule. C'est celui-là, le snob. Et en même temps, le snob, c'est celui dont on vient de parler, c'est-à-dire Huysmans, c'est-à-dire Des Esseintes, c'est-à-dire quelqu'un qui représente l'aristocratie par excellence, qui n'est pas forcément l'aristocratie de la naissance, mais celui qui n'a pas besoin de faire semblant de, qui n'est pas parvenu. Ces deux personnages sont le symétrique inverse l'un de l'autre, et tous deux représentent le snob.
Oui, absolument. Le snoblite, pour moi, c'est aussi une conception de l'écrivain chéri, vénéré par une petite coterie d'amateurs de littérature, de ce que j'appelle vraiment la littérature, et qui sont chéris aussi parfois pour un livre, pour un ouvrage ou deux ouvrages. Ce sont des gens qui, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mon livre, ont eu, alors là c'est un trait commun, alors c'est assez curieux, des trajectoires un peu parfois assez tristes, où il y a pas mal de... Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, il y a pas mal d'auteurs qui ont eu des problèmes avec la drogue, hein, qui sont morts de ça, qui sont suicidés aussi. aussi. Il y a une façon romanesque, entre guillemets, d'envisager la vie où il y a.
Il est sûr que le snob, il veut se distinguer, donc forcément, c'est qu'il a du mal à se fondre dans la masse ou dans sa classe sociale. Oui. Ce qui explique peut-être un recours à la drogue ou au suicide. Parce que quand on est snob, c'est que on n'est pas bien avec ses semblables. Oui, parce que justement, ils sont semblables à vous. Ce qui vous gêne.
Oui, exactement. Je pense que le snoblite.
Ça me fait rire votre expression snoblite. Vénéré, j'ai encore un peu de mal à l'intégrer. Hein.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce livre, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément que des extravagants, des personnages comme ça. Il y a aussi des auteurs dont je trouve que la vie, par essence même, est extravagante, non pas dans l'apparence, mais dans la trajectoire fulgurante, dans le destin parfois bref, ou le destin justement de gens qui se sont agrégés aussi, qui sont agglomérés, qui se sont rencontrés, qui ont formé des espèces de petits cénacles. Ça m'intéresse beaucoup aussi le cénacle de Bloomsbury, justement autour de Virginia Woolf, tous ces gens qui étaient snobs d'une certaine façon. Alors ils revendiquaient à eux, c'était un snobisme social aussi, mais un snobisme littéraire, puisqu'ils excluaient beaucoup de gens, ils détestaient le réalisme en littérature, ils étaient complètement hermétiques à tout ce qui ne participait pas de leur propre vision de la création artistique. Voilà, il y a des gens comme ça qui figurent aussi dans ce dictionnaire, mais ça peut aller à... J'ai mis certains auteurs de la Beat Generation qui, à mon avis, n'étaient pas des petits doigts en l'air, comme on dit, qui n'étaient pas des chichi-pompons, comme on dit. C'est-à-dire que c'était des gens un peu comme ça, d'apparence...
Ils étaient plus rugueux,
oui,
en général.
Plus rugueux, mais il y a quand même, pour moi, toute la coterie, l'axe Tanger qui est vénéré quand même par les snoblites, hein, quand même Paul Bowles et tout ça, ça fait toujours rêver, ça revient tout le temps, le mythe de Tanger, Paul Bowles, avec Kerouac et Burroughs qui débarquent là-bas et tout ce que ça a entraîné. Il y a aussi dans mon livre des villes qui sont mythiques, oui. Il y a Tanger, il y a des endroits comme ça qui sont. Il y a des lieux, il y a le Chelsea Hotel où est mort Dylan Thomas, mais où ont vécu pas mal de romanciers. Il y a des choses comme ça.
Encore une courte pause musicale et on vous retrouve dans quelques minutes, Fabrice Gagnot.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
La danse des mots toujours, et toujours avec vous, Fabrice Gagnot, à propos de votre dictionnaire de littérature à l'usage des snobs. Alors, quand on est snob, ce qui compte, c'est bien sûr d'aimer un certain nombre de gens, d'auteurs, d'écrivains, mais c'est aussi d'en détester d'autres ou de considérer qu'ils sont surévalués et de les regarder avec un certain dédain.
Absolument. Et je ne me suis pas gêné pour... établir une
vous, oui, vous entrez là-dedans. Quand vous dites, par exemple, dans la notule, pour reprendre votre mot, Marguerite Duras, propriétaire foncier, bon, on voit bien que c'est une façon de dire, oh, cette Marguerite Duras, tout le monde en parle, elle a eu le Goncourt, tout le monde la lit, c'est pas grand-chose, puisqu'elle plaît tant.
Alors, j'ai la dent dure pour envers Marguerite Duras et certains auteurs que je n'estime pas une grande
valeur. Vous pensez surestimer, en tout cas.
Oui, surestimer. Je le pense pour Marguerite Duras, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met... Ce dictionnaire est très partial. Je m'autorise ça et je trouve que c'est bien.
C'est-à-dire que Est-ce que vous vous posez vous-même comme snob en écrivant ce dictionnaire? Est-ce que c'est le dictionnaire d'un snob?
D'une certaine façon, oui. Je pense que dans mon dictionnaire figurent des auteurs qui restent dans ma bibliothèque. J'ai beaucoup de livres, mais dans ma bibliothèque, dans mes préférences... il y a des auteurs un peu oubliés comme Frédéric Procoche, il y a James Salter, il y a des il y a des gens comme ça que je trouve des écrivains à la fois magnifiques dans leur conduite et dans leurs œuvres. C'est une équation qui me plaît beaucoup, en tout cas, ça. Il y a des gens oubliés comme Fougeray de Montbron, qui était un libertin du 18e, qui a un peu redécouvert la Grande République, et qui a publié juste un petit opuscule de mémoire et qui est absolument cinglant et fabuleux. Et je m'autorise à être très, très, oui, je pense, partial. Partial, sinon ça serait pas un dictionnaire de littérature à l'usage des snobs. Et effectivement, il y a mon parti pris, je revendique mon bon et mon mauvais goût.
Parce que quand on est snob et qu'on s'occupe de littérature, on aime faire des hiérarchies. Dire celui-ci est meilleur que cet autre. Je reprends ce que vous écrivez par exemple à propos d'Hélène Bessette, égale de Sarraute, bien supérieure à Duras. Alors là aussi c'est une façon, ça fait un peu maître d'école, mais vous dites premier, deuxième, troisième, bonnet d'âne.
Oui, je suis absolument sévère, mais j'aimais bien le parti pris de deuxième degré par moment. C'est-à-dire que je pense que j'ai essayé en tout cas de le faire avec un peu d'humour et d'esprit et de vouloir justement peut-être par moment exagérer. C'est vrai que j'aime beaucoup Hélène Bessette qui a été redécouverte il y a quelques années, qui était totalement oubliée. Et c'est un bon exemple d'auteur qui fait se pâmer un tout petit cénacle de snoblites dont je fais partie, parce que plus personne ne connaît Hélène Bessette. Et
c'est vrai ça le snobisme, de dire, quand vous dites plus personne ne connaît Hélène Bessette, ça veut dire moi je connais Hélène Bessette. Et je suis quand même bien le seul, ou à peu près.
C'est un peu cruel, mais c'est vrai que.
C'est vous qui l'avez dit.
Oui, c'est moi qui l'ai dit, et vous avez raison, il y a peut-être une part de c'est je connais ça mieux que vous, et puis après tout oui c'est une petite non j'espère pas de prétention, mais de dire bon bah c'est je connais ce domaine et ça vous ne le connaissez pas, et j'en tire une certaine jouissance. Oui, il y a peut-être une jouissance de connaître, d'avoir un petit domaine interdit d'auteur, d'un domaine particulier d'auteur. Oui.
Est-ce que vous pensez, Fabrice Gagnot, que de temps en temps, il y a des genres qui sont plus en faveur chez les snobs ou moins en faveur? En particulier avec ce qu'on a appelé de temps en temps des littératures populaires. Par exemple, il était de bon ton de ne pas considérer que les romans policiers, la science-fiction, la bande dessinée avaient beaucoup de valeur à une époque. Et maintenant, ça en a beaucoup plus. Maintenant, ils sont moins méprisés, disons. C'est moins de la sous-littérature, c'est moins du mauvais genre.
Oui,
quel est le rapport du snobisme au mauvais genre, justement?
C'est pas qu'il ignore, mais disons que ces cases-là, la bande dessinée, que j'avoue, je ne connais pas très bien. Je suis pas un grand lecteur de bande dessinée, même si je la respecte totalement. Mais le roman policier, par exemple, est quelque chose qui ne m'a jamais fasciné, sauf quand ce sont des plumes, comme Chandler, Dashiell Hammett. Les premiers Elroy, parce que maintenant je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais les premiers Elroy, des choses comme ça, m'intéressent comme écrivain. Mais sinon, c'est pas que je les dédaigne, mais c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie du cercle des snoblites, quoi. Le roman policier, c'est quelque chose, vous allez de A à Z, il faut résoudre une énigme, ou le roman. Le roman noir s'adresse peut-être plus aux snoblites, oui, il peut avoir plus le roman noir. Mais le polar en lui-même,
c'est difficile de dire le polar en lui-même comme s'il n'y en avait qu'une seule sorte. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Vous-même, vous citez Chandler et Dashiell Hammett.
Oui, absolument. J'avoue que je suis plus sensible à des personnages comme ça. Non, le snoblite, il est d'ailleurs, il cite presque pas, pour vous dire, il est tellement snob, il cite à peine Marcel Proust ou Oscar Wilde.
Pour lui, parce que c'est trop facile.
Oui, c'est trop facile, c'est pour ça que je ne les ai pas cités. Mais ils sont comme des ombres géantes au-dessus de moi pendant tout le livre, mais je n'allais pas faire des entrées. Mon livre aurait totalement perdu en crédibilité.
Alors, une dernière question, Fabrice Gagnot. Vous citez dans votre introduction les 10 romans haïs des snobs littéraires. Ça serait quoi, par exemple?
Qui sont haïs, non, par mon cénacle, il y a... curieusement, alors que j'ai rien contre, trop c'est Sur la route de Kerouac, bâclé, mal écrit, un peu démodé, etc.
Mais c'est parce que aussi ça a été peut-être le roman phare d'une génération. C'est bien pour ça.
Il y a un parti pris, une mauvaise foi certaine là-dedans. Parce que
Kerouac n'aurait pas eu de succès, il n'aurait pas été détesté par les snobs.
Admiré par les snobs. Il y a aussi, vous la citiez. Alors là, je l'ai souvent rencontré, Marguerite Duras. Haï par les snoblites, par son personnage des dernières années, ses livres, ses pièces de théâtre. un peu laborieux, enfin c'est mon avis personnel. Vous avez aussi un auteur comme Le Clésio. C'est pas de la littérature qui plaît du tout au Snoblit. Ah, c'est
oui. Donc il faut pas avoir le Goncourt, faut pas avoir le Nobel, quoi.
Non, ouais. il faut pas l'avoir. Il faut résolument pas l'avoir. Il faut être oublié, il faut être méprisé et il faut être redécouvert par des espèces de fous furieux qui jurent leur grand Dieu que ce sont des grands auteurs.
Bah écoutez, merci beaucoup Fabrice Gagnaud d'avoir été avec nous pour cette danse des mots. Je rappelle que vous avez fait paraître ou reparaître le dictionnaire de littérature à l'usage des snobs aux mots et le reste. Merci bien d'avoir été dans la danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.